studio mobile, arrêtez du loin, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là. L'arrivée sera belle.
You got no clock, but many, many times, a little walk to walk, you open a good line. You got a heart, you got a tick, you got a talk. When I was a little girl, when I was a little girl, when I was a little girl.
Et me voilà dans ce chouette camion avec Alex. Salut.
Salut.
Alex, tu es le Balafonic Sound System.
Voilà, c'est ça.
Basé à Montpellier.
Ouais, sud des Cévennes, au nord de Montpellier, ouais. Ouais. Dans la campagne.
Faut le préciser.
Ah ouais, j'aime bien, ouais.
Alors c'est où précisément?
Alors c'est à Pompignan.
Ouais.
Voilà.
T'as monté ce projet il y a longtemps
Ça fait 2 ans, c'était l'anniversaire à Aurillac 2016, donc ça fait 2 ans la semaine dernière, quoi.
Pourquoi?
Parce que j'avais peur d'être en solo, alors j'avais envie de vivre l'expérience.
C'est quoi ton histoire musicale?
Alors j'ai commencé la batterie à 13 ans, et puis après j'ai fait des petits groupes de metal hardcore, et après j'ai rencontré pas mal de musiciens à travers des scènes ouvertes. J'ai commencé à m'ouvrir sur le reggae, sur le dub, sur la musique Nawa avec Abdoud, le fondateur des Boukak. Et après je suis parti aussi un petit peu à La Réunion où j'ai appris le Maloya, enfin voilà, des influences un peu partout. J'ai fait des ateliers africains avec des amis africains, c'est comme ça que j'ai rencontré le balafon. Voilà, le chemin là je te le fais vite fait quoi, mais en gros beaucoup de rencontres. Alors j'ai pas beaucoup voyagé, les voyages ça est arrivé après, mais voilà, surtout des rencontres riches.
Ouais. Parce que la batterie tu l'attaques du coup en autodidacte ou tu prends des cours?
Ouais, en autodidacte, j'ai pris un petit peu des cours. Mais c'était au niveau des heures passées derrière la batterie, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'autodidacte. Ouais. Mm-hmm. Ouais, beaucoup d'écoute, beaucoup de jeux.
Pourquoi cet instrument?
Eh ben, pourquoi cet instrument? C'est marrant, ça a commencé grâce au catalogue de la Redoute. Parce que j'ai vu une batterie électronique, tu vois, un petit truc avec des pads là, et j'ai dit, maman, je veux une batterie comme ça. Elle me fait, ah, ben, si un jour je te prends une batterie, ça sera une vraie. Et là, moi, ça a fait tilt dans mon cerveau, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Et là, voilà, la batterie, ben, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, encore aujourd'hui, quoi.
Le balafon, donc, c'est effectivement un instrument percussif, du bois et des calebasses dessous.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc là, tu le découvres en France?
Je le découvre en France avec donc un ami qui s'appelle Ali Keita, qui est un grand joueur de balafon, qui est venu dans mon village faire des ateliers. Moi, j'animais l'atelier avec lui, et puis du coup, j'ai rencontré à la base, moi, j'avais un petit peu le xylophone à la maison parce que j'avais fait un petit peu de conservatoire où on était obligé d'avoir un xylophone là, pour rentrer. Voilà, le conservatoire, je ne suis pas resté longtemps, c'était pas la bonne route pour moi, mais en tout cas, ça m'a permis de rencontrer le xylophone. Et quand j'ai vu le balafon, j'ai fait ce que j'aimerais bien, ça serait avoir un balafon, le son du balafon, mais avec la structure du xylophone. Ce qui fait que j'ai fait fabriquer un balafon sur mesure en Afrique, qui est composé comme un xylophone, c'est-à-dire qu'il est chromatique du coup.
Bon, et voilà, fais-nous vraiment la différence. Donc chromatique, c'est quoi?
Chromatique, c'est toutes les notes de la gamme comme un piano, tu vois, do dièse, ré dièse, etc. Et alors traditionnellement, le balafon, chez eux, au Burkina, il est pentatonique, donc une gamme de 5 notes.
Puis t'en as un petit peu du grave au début, un petit peu à la fin, et au milieu, plus aigu.
Non, là, c'est vraiment comme un piano, c'est-à-dire à gauche les basses, et plus tu vas vers la droite, plus ça monte vers les aigus.
Et quel était le sens de passer en quelque chose de plus traditionnel? C'est parce que tu avais malheureusement, on va dire, été, c'est peut-être pas le bon mot, mais influencé par cette expérience au xylo?
C'est surtout le son du balafon, moi, qui m'a vraiment plu. C'est beaucoup plus rond. La petite histoire, c'est que les calebasses, chaque calebasse, il y a une calebasse par lame, et chaque calebasse, elle est percée. Et il y a une soie d'araignée dessus qui fait le bourdon, qui fait qu'il va y avoir un bourdon dessous. Donc il y a la note du bois plus la vibrance de ce bourdon-là en plus.
J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai retourné quelques-uns des balafons.
Tu vas découvrir ça ce soir.
Et pourquoi il y en aurait qui n'auraient pas cette toile?
Les balafons, ils sont comme ça.
Forcément, la toile. Ouais. J'ai jamais vu ça.
Au Burkina, après, les autres balafons, je ne sais pas, mais celui-là, oui.
Ouais, mais je parlais sur le fait d'être dans une gamme chromatique plutôt que pentatonique.
Alors chromatique, c'était pour pas me limiter aux tonalités, tu vois, parce qu'autrement j'aurais tendance à tourner vite en rond. Voilà. Après, soit je faisais vraiment de la musique africaine, et ben là, le pentatonique, il fait l'affaire, comme ils font en Afrique, tu vois. Mais moi, j'avais vraiment envie de m'ouvrir sur d'autres gammes, d'autres possibilités.
Donc, du coup, tu joues pas vraiment du balafon traditionnel ?
Non. C'est du balafon chromatique.
Alors, tu parlais d'avoir travaillé avec quelqu'un au Oud, tu me disais, c'est ça ?
Abdou ?
Oui.
Ouais.
L'appareil, c'est des gammes qui ne vont pas.
C'était pas au bal. Là, j'ai bossé avec lui, c'était à la batterie. Ah, c'est-à-dire que lui, il m'a apporté tout le rythme, en fait, Gnawa, qu'on a transposé à la batterie. Et du coup, aujourd'hui, dans mes influences de mon jeu de balafonic sound system, j'ai cette influence de rythme aussi. Voilà, c'était pour te parler des richesses des rencontres.
Donc, voilà. Tu mixes plusieurs rythmes. Voilà.
C'est ça. Ah ouais, je peux avoir un côté un peu rock, un peu dub, reggae, hip-hop aussi dans le chant. Enfin dans le chant, c'est un dialecte que j'utilise, mais dans les rythmiques du vocal, ça va être un peu hip-hop. Et puis après Maloya, et puis Gnawa, enfin africain, il y a un mélange de tout ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'instruments, et tous ces instruments, en fait, il y a un symbole autour de cette carriole, parce que il y a un didgeridoo qui vient d'Australie, la shruti box elle vient d'Inde, les guimbards elles viennent du Vietnam, le balafon vient d'Afrique. Après, il y a le beatbox qui est art de rue, tous les instruments occidentaux, clavier, tu vois, les sons un petit peu modernes, tu vois, et des effets, tout ça. Donc, c'est le symbole de cette carriole, c'est en un point, il y a le monde entier. Et ça marche, tu vois. Et les gens, ils aiment. Tu vois, il n'y a plus de racisme quand tu écoutes ma musique, en fait, tu vois. Il n'y a plus les frontières. Les frontières, pour moi, c'est un peu les blessures, un petit peu, c'est un peu des peurs, tu vois. Et cette carriole, elle vient nous dire, voilà, n'ayez pas peur, regardez, ça se passe bien, tu vois.
Tu le présentes comme ça ?
Ouais, vraiment, hein. Mm-hmm. Vraiment, ouais. Je ne le présente pas forcément au début des concerts, tu vois. J'ai fait un concert le 11 août, là, c'était à mon village natal. Donc, on m'a demandé de présenter mon projet. Donc, c'était la première fois que je prenais mon micro, un peu comme là, tu vois, et que j'expliquais ça. Et après, c'est souvent après les concerts ou quand vraiment les gens sont curieux qui viennent me demander la provenance des instruments. Là, je leur dis le symbole que j'ai au fond de moi avec cette carriole, quoi.
Donc, le balafonic sound system est monté sur une carriole.
Oui, voilà, parce qu'à la base, c'était un projet de rue.
Et un projet pour Aurillac, voilà.
Pour Aurillac, ça a cartonné. Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur Facebook. Là, en 3 semaines, j'ai fait 250 000 vues. Ça a été vu dans le monde entier, tu vois. Et puis là, depuis, j'ai fait 120 dates en 2 ans. Ça n'a pas arrêté. Donc la carriole, elle est passée de la rue à la scène. Petit festival, gros festival, salle de concert, café-concert, tu vois, des choses comme ça. Et puis à nouveau de la rue. Et puis, enfin, elle s'adapte.
Voilà. Elle est montée comment, alors ? Artisanal, t'as fait un truc spécial.
Alors c'était une vieille carriole que j'ai trouvée dans un jardin. Avant elle vendait la lavande dans les marchés, tu vois. Elle était toute délabrée, toute rouillée, le bois avait tout été bouffé par les petits insectes qui sont là pour ça. Et du coup je l'ai demandé, ils me l'ont offerte, ses amis, et je l'ai retapée. Et quand j'ai fini de la retaper, je me suis dit, mais oui, mais en fait voilà, j'ai envie de faire quelque chose là. Et j'ai monté tous mes instruments dessus, j'ai mis une batterie de camion, un convertisseur, et je suis parti dans la rue.
Ouais, en fait, t'avais pas pris la carriole pour ça au départ.
Non, c'est juste que je la trouvais belle. Je savais pas encore qu'est-ce qu'elle allait me réserver, tu vois.
Ouais. Ces instruments, t'es allé les chercher dans les pays dont tu parles ?
Non.
Tu les as visités après ?
Ben en fait, là, peut-être là, je suis en train de voir avec Ibrahim Keïta, qui est un joueur de kora assez connu aussi. Là, je suis. On est en train de voir pour que j'aille au Burkina en janvier, au Soko Festival. Donc je vais aller au Burkina rencontrer le pays de mon balafon où je ne suis jamais allé, tu vois. Il vient de là-bas, lui, je l'ai fait fabriquer là-bas, mais je n'y suis pas allé encore. Et je suis encore jamais allé en Australie, je ne suis jamais allé en Inde, tu vois. Mais voilà, je pense que ça va y aller.
Et toutes ces dates, c'était en France principalement ?
En France et à La Réunion.
Ouais.
Ouais, après,
c'est la deuxième fois que tu parles de La Réunion, comment ça se fait ?
Ben, ça se fait que je suis parti jouer au Manapani Festival avec mon groupe Balafang. Ensuite, j'y suis retourné 3 mois avec Balafonic. Et ensuite, je suis retourné jouer au Manapani Festival avec Jamanawa, qui est un autre groupe que j'ai, où là, je suis à la batterie. Et en fait, à La Réunion, j'en parle parce que les 3 mois que j'ai passé là-bas, j'étais parti pour faire 4 concerts, j'en ai fait 16. Ça a joué partout, ça va très vite les contacts. J'ai rencontré ma chérie là-bas, qui est réunionnaise, qui est venue vivre avec moi ici. Et donc je parle de La Réunion parce que ça a amené encore une dimension, tu vois, à ma musique.
L'influence de l'Inde peut-être.
Ouais, La Réunion c'est tellement mélangé, quoi, c'est incroyable. Hein, c'est pareil, La Réunion je trouve qu'elle est un peu comme la carriole. C'est-à-dire qu'elle montre que dans un petit espace, il y a tout qui est mélangé, toutes les religions, toutes les couleurs, et ça marche très bien, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'aime La Réunion aussi. Et je trouve qu'elle symbolise bien aussi, enfin, ça correspond à mon chemin, ouais. Ouais.
Le dialecte que tu utilises,
c'est quoi ?
Bah alors avant on pouvait appeler ça du yaourt, tu vois, quand j'étais plus jeune. Mais après, Il y a quand même du symbolisme derrière parce que je voulais chanter. Alors j'avais écrit des textes et tout ça, mais dès que j'écrivais, j'arrivais pas à m'exprimer avec ce que j'avais écrit en fonction de mon émotionnel, ça collait pas quoi. Et donc je voulais pas m'interdire de chanter malgré que j'avais pas forcément les textes qui correspondent à mon chant quoi. Et du coup j'ai commencé à dire bah tiens, si jamais j'ai envie de dire ça, comment je peux faire ? Et je sortais des onomatopées que j'ai réécouté, que j'ai noté, et puis petit à petit c'est devenu un langage. Je réutilise souvent les mêmes mots, les mêmes couleurs, les mêmes images, tu vois, c'est un chant émotionnel un petit peu, et ça veut dire, pour tous ceux qui veulent chanter et qui n'ont pas de texte, allez-y, ça marche très bien.
Mais genre, est-ce qu'il a... c'est un yaourt voilà, qui pourrait sonner anglais, qui pourrait sonner...
Ah bah alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, j'ai des témoignages, des gens qui viennent me voir en me disant « ça me fait penser, ton langage, c'est ça !» Tu vois, et je leur dis non. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, j'ai des provenances différentes. Les gens, ils entendent des provenances. Et puis du coup, moi, j'ai tapé un délire, j'ai pris mon dialecte, je suis allé sur Google Traduction et j'ai écrit un texte. J'ai copié-collé un texte. Et en fait, dans la détection de la langue, à chaque fois, ils me trouvent un pays différent, tu vois. Ils trouvent des mots. Enfin, c'est trop rigolo. En fait, il y a des mots qui sont sortis naturellement, qui veulent dire des choses dans des langues, mais que je connais pas, tu vois. Enfin, c'est...
Ah oui, t'as pas du tout fait exprès. Non. C'est que du...
Ouais.
Des notes, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. J'utilise vraiment ma voix comme un instrument, au final. C'est des cordes vocales. Pourquoi mettre du sens ? Enfin, le sens, c'est il vrai. Est ailleurs, en fait. Voilà.
D'un point de vue technique, alors, comment ça marche ? Tu te samples beaucoup ?
Alors, c'est-à-dire, en fait, tout est fait en live.
Comme t'as plein d'instruments.
Voilà, oui, c'est ça. J'ai une loop station, en fait. Ouais. Tout est centralisé. J'ai un gros système de... Enfin, je me suis vraiment penché dessus. J'ai un gros câblage interne dans la carriole qui est relié à une table numérique.
Elle pèse combien, cette carriole ?
Ouais, de faire pas 130 kilos.
Ah ouais, ouais.
Et du coup, tout est centralisé. Tout est envoyé dans la loop station. Je peux louper n'importe quelle chose qui est autour de ma carriole. Bah, je peux vraiment...
Y compris le public.
Ah, des fois j'ai le décrit du public qui est dans la loupe, c'est sympa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu des enregistrements de live où dans les morceaux, quand je les ai réécoutés à la maison pour me faire plaisir, eh ben, quand j'ai loupé le public, ça faisait à part entière du coup du morceau live, tu vois. Du coup, après, quand je joue le morceau en live ailleurs, j'entends ce truc que personne d'autre entend, parce que moi, c'est juste dans mes souvenirs, tu vois, d'entendre le public faire un cri, tu vois, et que ça me rappelle le morceau live de telle époque, tu vois. Enfin, là, c'était rigolo.
Du coup, on le dit, voilà, si vous venez voir un concert du Balafonic Sound System, n'hésitez pas à crier un moment, à bon escient.
Oui, à un bon moment, oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Bon,
si c'est pour me dire ta gueule et chante, ça, tu le gardes, quoi.
Remarque, ça peut être rigolo à faire tourner.
Oui, bien sûr, carrément.
Parce que tu nous as pas parlé de ton côté punk.
Ah ouais, alors mon côté, en fait, je suis pas très punk en vérité. Hein.
Voilà.
Je suis pas très punk. Non, je suis plutôt, je sais pas comment dire. Je sais pas ce que je suis, mais je sais même pas ce que ça veut dire être punk en fait au final. Tu vois.
Peut-être être énervé, tout simplement.
Ouais, je crois que oui, mais je crois qu'être énervé, ça peut m'arriver.
En colère.
De plus en plus. Je pense que la colère, on en a tous. Hein.
Mm-hmm. Est-ce qu'elle passe dans ta musique? Est-ce que tu passes du coup un message, puisqu'en fait, alors, finalement, on comprend pas le texte, mais...
Alors, en fait, c'est marrant parce que tu poses cette question. C'est très rare.
C'est facile, on la pose à tous les
musicaux. C'est très rare, en fait, que ma colère soit dans la musique.
Ouais.
Par contre, par exemple, quand je joue dans des endroits où je vois que la mayonnaise prend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet échange d'énergie, tu vois, moi, je donne quelque chose, le public, si jamais il arrive à capter ce que j'envoie et que du coup il rentre dans ce jeu d'énergie là, tu vois, là ça commence à circuler, là ça se passe, c'est vraiment magnifique. Si jamais il n'y a pas ça, à un moment donné, ça va être, on va dire, c'est pas vraiment de la colère, mais c'est comme quelque chose d'un peu plus guerrier, tu vois, qui va dire ok, bon là on est là ou on n'est pas là, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, je vais pas le dire au micro, ça va être dans l'énergie, dans ma manière d'appuyer, ça va être un peu plus saillant, tu vois, il va y avoir des choses comme ça qui viennent un peu percuter les gens et dire ah, qu'est-ce qui se passe. Et, enfin voilà, enfin après c'est...
Il s'énerve, ça va pas.
Ouais, voilà, alors je sais pas si... Voilà, t'as parlé de colère, je suis pas sûr que ce soit de la colère, parce que voilà, je crois que...
Non, mais c'était d'un point de vue artistique, voilà, beaucoup de gens essayent parfois de passer quelque chose aussi.
Non.
T'as parlé de ses frontières, par exemple, bah, c'est un dialogue qu'on aime bien, nous aussi, ouais. À RDIWA.
Ouais.
Voilà.
Moi, c'est vraiment, on va dire, ce que j'essaye de mettre le plus dans ma musique, c'est la présence, tu vois. C'est, est-ce que j'arrive à être là? Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur face à tous ces gens-là? Est-ce que j'arrive à pas me juger? Est-ce que j'arrive à pas me dévaloriser? Est-ce que j'arrive à être vraiment dans l'humilité du moment? C'est-à-dire, est-ce que j'accepte le moment comme il est? Moi, je suis vraiment là, tu vois, voilà.
Ça veut dire que si tu es un peu...
Si là où je peux être en colère, c'est après moi. Si jamais j'ai je me sens un peu trop dans des projections ou pas assez connecté à ma propre musique, tu vois. Ça, je peux avoir des colères, ouais. Dire, putain, mais qu'est-ce que tu fais, ta tête, là, tu vois. Voilà, parce que le mental...
Justement, si t'es un peu déprimé, t'arrives bien à jouer.
Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui est étonnant. C'est que vu que cette musique, je la crée le matin et je la crée vraiment plus près de ce que je suis, au réveil, tu vois, avec de l'énergie vitale du matin, enfin, tu vois. Si jamais je suis déprimé ou pas bien ou fatigué, je sais que quand je vais monter sur scène, quand je vais commencer cette musique, elle va être thérapeutique pour moi parce qu'elle me, inconsciemment, dans la vibration, dans les souvenirs internes, je ne sais pas comment on peut dire ça, ben, elle me ramène à ces matins où j'étais bien, où j'ai composé, tu vois. Donc, je ne me fais pas de soucis si j'ai un coup de mou avant. Je sais que quand je vais être sur scène, ça va bien se passer.
Encore sur la compo. Alors donc, le matin, de quelle heure à quelle heure vas-tu te mettre un peu ton rythme?
Ben en fait, j'ai pas vraiment d'horaire. Par contre, j'ai un point d'honneur, c'est que quand je rentre de tournée ou de concert, j'arrive chez moi, je remonte la carriole direct, enfin direct ou le lendemain matin, tu vois, pour qu'elle soit prête dans ma chambre, enfin dans ma salle de musique, et que je puisse vraiment, quand c'est là, quand j'ai envie, que je puisse juste allumer et c'est parti, quoi. Tout est déjà réglé, tout est prêt, quoi. Et donc, ça peut être, par exemple, je me lève. Je descends en bas dans ma salle de bain, je passe dans la salle de musique, oh, putain, ça m'attire, je commence à faire balafon, j'allume tout, oh, je fais ma première loupe, et puis ça peut être 7h du matin, en mode doucement parce qu'il y a des voisins. Et donc là, je vais composer la musique vraiment très douce, tu vois, voilà. Puis vers, je passe, à 10h du matin, ça va être un peu plus péchu parce que là, je commence à bien monter aussi en sève à l'intérieur, tu vois, enfin voilà.
Du coup, tu es dans une situation très saine au matin, on imagine.
Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Moi, pour moi, le matin, quand je me lève, j'ai la quantité d'énergie vitale pour la journée, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est voilà, tu te lèves avec ça, et maintenant, ben, à toi de voir qu'est-ce que t'en fais, tu vois. Par exemple, si jamais je me fâche avec quelqu'un, ben, je vais perdre tant de pourcents de cette énergie, tu vois. Donc après, derrière, ben, il faut assumer, tu vois, ces choix de se mettre en colère ou de réagir à des situations, tu vois. Non, voilà, c'est.
D'où l'importance de faire ça le matin, puisque tu risques de rencontrer moins de gens, quoi, pour pas chier.
Ouais, c'est ça, la musique du soir, j'ai essayé de composer le soir, et j'avais essayé de coller un petit peu comme ils faisaient certains, c'est-à-dire, ouais, putain, le petit pétard, le petit rhum, là, pour composer, c'est génial, nanana, tu vois, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer, petit rhum, petit pétard, non, ça marche pas chez moi, tu vois, ça appartient aux autres. Le soir, le soleil s'est couché, moi je sens que je suis une énergie plutôt descendante, c'est pas là que j'ai envie d'allumer mes instruments. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que les concerts, ils sont le soir ou la nuit, et les gens, ils tripent sur cette musique-là, et le truc qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, c'est parce qu'en fait, on est le soir, mais c'est le matin dans la musique, là, tu vois. Voilà, et ça, c'est, je crois que c'est la première fois que je vais le dire, ça, en fait.
Et du coup, il faudrait te programmer une certaine heure le soir pour que ça ait vraiment son effet,
ouais,
tu crois?
Je crois que ça marche à toutes les horaires. Hein. Ouais. Ouais. Concert, je peux jouer le matin, l'après-midi, le soir. C'est une énergie, c'est tout, dans une autre, tu vois, mais elle est compatible, du coup, elle est douce.
Pour continuer sur cette composition, donc tu composes le matin, tu te loupes, etc. Est-ce que tu, à ce moment-là, tu enregistres un certain nombre de samples qui vont te servir, ou est-ce que c'est simplement des compositions que tu t'évertues, on va dire, de retranscrire plus tard? Ouais. Donc tu retombes sur des bases, voilà.
J'ai une base, et si jamais vraiment la base que j'ai créée, elle me plaît, je vais la sauvegarder dans une piste. Donc j'ai ma piste 1 qui est ma piste création, où à chaque fois je l'efface, celle-là, et puis de temps en temps, quand il y a vraiment une tourne, je me dis, ah putain, ça vaut le coup de le creuser un peu plus. Je la enregistre sur les pistes disponibles, là, et puis plus tard, les fois je les oublie, puis plus tard je fais, bon alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je fouille dans mes pistes et je fais, oh putain, ouais, ça c'était bon. Et donc, je le retrouve et je repars là-dessus. Et puis là-dessus, j'essaie de voir un petit peu ce que je fais. Je vais sortir la flûte, je vais sortir la voix, un peu. Enfin voilà, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire avec.
Et pour les lives, du coup, c'est une sorte de compilation de ces moments-là que tu ressors
Ouais, complètement. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai cette base toujours qui me fait la structure un petit peu solide de mes morceaux, et puis dessus, je les lire. En fait, dessus, je vais improviser, le balafon.
C'est du jazz, en fait.
Y a un peu un esprit jazz, parce que finalement, si je veux couper la basse, je vais couper la basse. Mais la fois d'avant, la basse, je ne l'ai pas coupée au même endroit. C'était juste que là, je sentais qu'il fallait couper la basse. Voilà, tu vois, les gens ils dansent différemment. Je sais pas, quand tu vois le gars qui fait une pentade devant, tu vois, bah, j'ai déjà eu la pentade devant, bah, tu fais t'essaies de le suivre. Tu vois. Et ça, la fois d'avant, tu pouvais pas le faire, c'était pas la pentade, tu vois ce que je veux te dire. C'était, je sais pas, l'écureuil. Enfin voilà, juste pour dire que ouais, j'ai quand même cette part de liberté. C'est important. C'est important pour moi de laisser cette part de liberté.
Alex, Balafonic Sound System, t'as parlé tout à l'heure d'autres groupes, ouais. Donc tu vis de la musique?
Oui, oui, oui.
Intermittent?
Oui, intermittent. Alors ça, c'est un message important d'ailleurs à passer. C'est un témoignage de ma propre, mon propre chemin, ma propre expérience. Au début, j'étais musicien qui s'est dit, tiens, si j'allais être intermittent, donc je me suis mis à œuvrer pour être intermittent. Et j'ai passé, du coup, j'ai fait quelques dates que j'avais pas forcément envie de faire, c'était pour être intermittent. Donc on appelle ça, dans le jargon, un peu la course au cachet, quoi. Et ça m'a un peu écœuré, quoi. Ça m'a un peu éloigné, pas beaucoup parce que je me suis vite, vite rattrapé, mais ça m'a un peu éloigné de, vraiment de pourquoi je fais la musique. Et puis je me suis dit stop là, si jamais un jour j'ai envie d'être musicien, il va falloir que je fasse de la musique pour la musique. Et du coup ben, j'ai commencé vraiment à lâcher intermittent, j'ai arrêté d'être intermittent, et puis j'ai fait la musique, quoi. Et j'ai créé Balafonique, et puis je me suis dit, si un jour je dois être intermittent à nouveau, c'est pas moi qui vais courir après les cachets, c'est le statut qui viendra à moi. C'est parce que je suis à ma place, je suis au bon endroit, quoi.
Donc j'ai t'en fais assez.
Voilà, donc j'ai fait, j'avais des demandes, j'y allais, je disais oui, hein, j'ai changé, hein, puis petit à petit, oh, ben tiens, ça y est, je peux
monter mon...
Ouais, j'ai mes dates, ouais. C'est ça. Ouais.
Donc le Balafonique, rappelle-nous les autres.
Alors, Balafonique Sound System, c'est le projet solo. Balafang, c'est un trio, il y a un joueur de hang, un clavier... moi je suis au balafon, loop station, et tous les trois on est batteurs, donc on a une batterie derrière et puis on tourne, voilà. Et Jamanawak, c'est un autre trio, là je suis à la batterie, didgeridoo, guimbard, beatbox et chant. Il y a Marius qui lui fait tous les sax, du soprano, baryton, il fait de la flûte traversière, il fait du bensuri, beatbox et chant. Et après on a un gars au clavier qui est un peu fou, il a plein de claviers, il fait la basse, il fait de l'harmonica aussi, et voilà, et puis ça se barre dans tous les sens. Il y a beaucoup d'impro dans ce groupe et dans tous les styles, quoi.
Voilà. Finalement ces trois groupes ont comme ça ce côté à la fois très free et très improvisé.
Ouais. Oui, bah parce que moi je ferais pas une aventure où je suis segmenté, quoi. J'irais pas là-dedans. C'est pour ça.
Des albums?
Ben là, j'ai sorti mon premier album avec Balafonique au mois de mai.
Tout seul, comment? Ouais. Alors, vas-y.
Ben, tout seul, avec les conseils du gars avec qui je bosse au son. Il m'a dit, voilà, tu fais les prises de son, tu m'envoies tous les boons, toutes les pistes séparées, et moi, je te ferai le mixage et le mastering. Voilà.
Tu veux le citer?
Il s'appelle Jordan Tanzi.
Voilà. C'est toujours sympa, quoi.
Ah ben oui, carrément.
Et donc, cet album, voilà, t'as posé là un certain nombre de titres que...
Sept titres.
Que maintenant tu peux laisser filer et de nouveau envoyer autre chose en live, par exemple, c'est ce qui se fait souvent avec les albums.
Ouais, bah. Alors moi, je sais pas. Je sais pas s'il y a un principe là derrière, mais en tout cas, de temps en temps, je joue des morceaux qui sont mon album, hein, parce que mon album, il est le reflet de ce que je joue là. Et puis, petit à petit, certainement, je vais en lâcher pour en prendre d'autres. D'ailleurs, c'est ce qui s'est déjà passé. Hein. J'avais une petite maquette que j'avais fait vraiment roots à l'ancienne où je collais mon autocollant sur le CD, tu vois. Et ben là, il y a des morceaux que je joue plus. Tu vois, ça évolue. Ouais.
Celui-là, il est vraiment édité. Tu le vends? Comment il se distribue?
Ben, je le vends sur place. Ouais. Et après, je l'ai mis aussi en téléchargement. Enfin, gratos. Enfin, il est sur le net. Tu peux l'écouter sur SoundCloud. Celui qui n'a pas l'argent pour acheter le CD, il peut quand même l'écouter, quoi.
Ça, c'est une politique pour toi?
Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que si ma musique touche certaines personnes, eh bien, que ces certaines personnes-là puissent la réécouter, peu importe les moyens. Enfin, tu vois, je sais pas, ce qui est important avec la musique, c'est qu'on puisse la réécouter si elle nous a plu. Ça serait dommage que quelqu'un ne puisse plus écouter la musique parce qu'il n'a pas les 10 balles pour acheter le CD, tu vois. Voilà.
Et puis elle voyagerait sans doute moins, elle ferait moins le tour du monde aussi.
Ouais. Non, ouais, moi, ça, pour moi c'est important, ouais, bien sûr.
Tu nous parlais de 120 dates super rapidement en 2 ans sur ce projet-là. Du coup, le melon?
Le melon, bah ouais, mais le projet solo, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un projet qui te ramène très très près de qui tu es. Tu prends des vraies leçons, en fait. C'est un peu une parallèle de vie, hein. C'est un peu comme quand tu es en couple et que tu vas expérimenter un peu la vie solo pour prendre confiance, pour plus être dans un couple de besoins, tu vois. Bah là, c'est pareil, la musique, à un moment donné, tu vis le solo. C'est pas pour aller se prendre le melon, quoi. Tu vois, je serais triste si jamais mon projet solo m'amenait vers le melon. Ça voudrait dire quelque chose de grave pour moi, tu vois. Non, au contraire, moi, je pense que plus j'avance, plus je me rapproche de moi. Et en fait, plus c'est authentique, Et plus j'ai des enfin voilà, la musique c'est une vraie thérapie, c'est un vrai chemin de vie, tu vois. Tu rencontres l'orgueil, tu rencontres la dévalo, tu rencontres la comparaison, tu vois, et tu te dis même humble alors que tu l'es pas, enfin tu vois, il y a tout un chemin comme ça. Enfin, moi je parle du mien, mais bon, je suis assez observateur pour voir que je suis pas le seul à vivre ça dans la musique. Et petit à petit, il a fallu que je fasse des exercices de clown, tu vois, pour aller me libérer de tout ça. Parce que je l'observais chez moi, mais je me détestais là-dedans, tu vois. J'avais des jugements sur moi, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, ça, on va le regarder, quoi. Et du coup, ben, je suis allé me foutre de ma propre gueule, en fait, tu vois. Et voilà, donc, non, non, le melon, je le laisse pour ceux qui aiment le manger, ouais. Ça, moi, j'en veux pas.
Et ce serait pour qui d'ailleurs? Ça, c'est un peu les organisateurs qui vous mettent dans des situations comme ça, le milieu
Non, non,
artistique?
moi, je crois qu'on n'est pas des victimes, hein. Tu vois, moi je pense que vraiment, je pense que si on est dedans, c'est parce qu'on doit vivre l'expérience et que ben, après tu restes dedans, tu t'en sors, ça c'est toi qui vois, quoi, tu vois, chacun est responsable de sa vie, hein. Ça serait trop facile de dire c'est à cause de l'organisateur.
Ouais, mais
On
vu que vous
n'avance
êtes
pas comme
tous
ça.
à suis à beaucoup en tout cas à vivre ça.
Ouais, non, on peut dire par exemple que j'ai vécu un mauvais accueil parce que l'organisateur il n'a pas l'expérience d'un bon accueil, par exemple, tu vois. Mais au niveau de mon être intérieur et ce que j'arrive à véhiculer aujourd'hui, je suis responsable. Je suis responsable d'avoir trouvé que c'était un mauvais accueil. Enfin, tu vois, je peux aussi relativiser et dire ben, cet accueil que j'ai aujourd'hui il est parfait. Peu importe comment il est. Je sais pas, il faut voir un petit peu, c'est ma chienne.
Je sais pas si elle passe au micro, mais t'as un chien, effectivement. Alors, du coup, toi, tu viens avec ton camion, ta loge direct,
Ouais.
ça permet d'avoir toujours un bon accueil.
Ouais, bah, par exemple, ouais, c'est ma chambre roulante, c'est bien.
On est au festival Le Cul dans l'eau, 1er septembre. Comment t'as trouvé ça? On t'a cherché
Ouais, bah, c'est Saïd qui a découvert mon projet sur Internet, là. Et puis, il m'a contacté, il m'a dit t'es chaud. Je fais bah oui. Voilà, j'étais à Embrun avant-hier et voilà, j'ai dit parfait, sur la route je rentre.
Comment tu sens le tas de fumier? T'étais déjà venu dans la Drôme? Un petit peu de chauvinisme pour nous.
Bah ouais, moi j'ai mon oncle qui habite à Miscon, c'est un village juste au-dessus là. Je viens souvent, j'adore, j'ai des amis un peu partout dans le Diois. Et comment je sens le lieu, c'est magnifique. Tu vois, j'avais vu David une fois après Martal travailler avec des chevaux. J'ai dit, cet homme il est étonnant et tout. Et puis ce matin, j'ai une grande conversation avec ce gars qui habite ici, hein, qui habite sur le tas de fumier, quoi.
David Rullier, t'as
Ouais,
fumé
c'est ça, ouais, qui est
une compagnie.
et lui là, il a une vraie expérience de regard, l'homme face au cheval. Mais voilà, c'est profond en fait ce qu'il arrive vraiment à véhiculer dans son attitude avec les chevaux, et du coup la parallèle entre les humains elle se fait, quoi, tu vois. Ce matin on a eu une super conversation, donc oui, le lieu, pour répondre, le lieu c'est je me sens très bien.
Tu joues en deuxième partie là?
Ouais, c'était jusqu'à ce matin on savait pas encore comment on le faisait. Et là, il y a le petit côté pratique qui est venu, c'est que vu que mon install elle est plus dure à bouger, je vais jouer en dernier, comme ça les copains après ils pourront monter pour jouer avec moi. On va faire une petite.
Tu les connais donc?
Oui, ils sont de Montpellier.
Aussi.
Ouais.
Vous avez déjà buffé, rencontré peut-être, non?
Bon, on se croise depuis des années. Puis il n'y a pas longtemps, je suis allé faire un coup de balle à fond avec eux comme ça à l'improviste. Et puis là, on va essayer de faire les deux formules complètes ensemble. On va voir ce que ça donne.
Tu veux une parole libre?
Alors, une parole libre. Ben moi, j'aurais un message important à passer. Ça serait, alors ça va paraître un peu bizarre, mais c'est. En ce moment, donc ma carriole, c'est quelque chose que je finance depuis des années. Enfin, tu vois, ça fait les instruments, ça fait longtemps que j'essaie de les acquérir et tout ça. Donc c'est long. Et là, j'ai rencontré un instrument qui s'appelle la vielle à roue, que j'adore. J'ai jamais touché une vielle à roue, mais je l'adore. Je la suis beaucoup. Je vais voir beaucoup de vidéos. Je regarde comment ça fonctionne et tout ça. Et du coup, j'ai demandé à un luthier de me fabriquer une vielle à roue électrique. Pour mettre dans le balafonique son système. Et je sais que j'ai joué un peu partout en France et il y a énormément de gens qui me suivent sur ce projet. Et donc j'ai monté un financement participatif sur KissKissBankBank qui pour m'aider à financer cette vielle à roue. Et donc voilà, donc moi ce que j'ai envie de demander, c'est que si jamais ça vous parle d'entendre la vielle à roue électrique dans balafonique, bien, vous pouvez venir m'aider à la financer sur KissKissBankBank. Voilà, chacun son sommet, c'est-à-dire ben, si jamais tu as 5 balles, c'est parfait. Et si jamais tu n'as pas l'argent et que tu diffuses l'info, c'est top. Voilà. C'est ça ma parole libre. Parce que c'est vraiment, ça fait partie du moment, c'est-à-dire que je rêve d'avoir cette vielle à roue. Et je sais que je l'aurai. Et si jamais les personnes qui aiment ma musique et qui me suivent peuvent m'aider, bah c'est top. Tu vois.
Peut-être que tu veux pas le dire, mais c'est combien un instrument comme ça ?
Ben alors là, le Kiss Kiss Bang Bang, il s'élève à 4 200 €. La vielle à roue en fait 3 400. Après, il y a un pourcentage pour le site, voilà, parce qu'ils font, ils font quand même pas mal de choses. Et ensuite, il y a aussi... dedans, on rentre... Ben, de toute façon, sur le Kiss Kiss Bang Bang, tout est détaillé. En fait, ouais, il y a déjà tout, tout... montre où va aller l'argent, en fait. Voilà.
Bon, bah, lisez donc ceci. Et puis, bah, tiens, d'autres réseaux, où est-ce qu'on te trouve ? Sur Internet, un site, tout ça ?
Il y a un site sur Wixsite. Il y a Facebook. Il y a YouTube, où tu peux voir des vidéos. À SoundCloud, où tu peux écouter. Et voilà, et après je suis sur toutes les plateformes numériques en fait, comme Spotify, Deezer et tout ça, tu peux trouver aussi.
C'est tout toi qui gères ça ?
Ouais, avec ma chérie qui m'accompagne sur toutes les dates. À part, ben, là ce soir elle n'est pas là, mais autrement elle m'accompagne sur beaucoup beaucoup de dates.
Ouais. Non, c'est pas ce chien quoi.
Non, 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 ma chérie c'est pas une chienne.
C'est mauvais. Je veux pas savoir votre vie privée. Ouais, merci Alex.
Hein. Yes, mais merci à toi.
Merci.